hors champ. Hors champ, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir en compagnie de Valère Novarina. Aller à la grammaire séraphique, assemblage de logaèdre, aller à la grammaire soufflée, pratiquer la scène et l'ombre de la scène, finir par entendre ce que voulait dire, deux points, tu fuis le 2, tu cherches le 3, tu trouves le 4. C'est un extrait d'un de vos livres, Valère Novarina, intitulé « L'envers de l'esprit ». On a l'impression que, à travers cet aphorisme, il y a beaucoup d'entrelacements de vos différentes disciplines. Vous êtes à la fois auteur, metteur en scène, acteur, poète, écrivain, et en même temps, on se dit que vous êtes inventeur de langue, décodeur de langue, et qu'à l'intérieur de vous bruissent en permanence de nombreuses langues.
Oui, vous avez curieusement commencé par une flèche au cœur de la cible. le 1, le 2, le 3, le 4. Donc, parce que là, j'ai dans mon sac un manuscrit que je dois remettre à Paul Tchaïkovski tout à l'heure et qui s'appelle « La quatrième personne du singulier ». C'est cette sensation qu'il faut ouvrir, qu'il faut passer de 1, c'est un point, 2, c'est une ligne, 3, c'est une surface, et le 4, c'est l'apparition soudaine du volume. Donc c'est le chiffre du théâtre, c'est le chiffre du passage de la page. La page, c'est 3, c'est une surface à l'espace. Et aussi, c'est le chiffre du corps, du déploi du langage dans le corps. Parce qu'il me semble que toute image qu'on a de la linguistique ou du langage résumé par un schéma sur une feuille plate, sur une plate-feuille, est fausse. Tout schéma signifiant, signifié, sujet, verbe, complément, que le langage est un organisme qui se développe dans l'espace et qui agit, dans le fond, assez mystérieusement, c'est ce dont on s'aperçoit en étant tous les jours avec lui, qui agit par...
le langage, vous en parlez comme d'un être humain.
Oui, l'idée que c'est un corps, que c'est pas une panoplie d'instruments devant nous, que toute représentation mécanique du langage est fausse, que le langage est un corps, donc un corps complexe qui se développe et qui aussi... Que le sens aussi se déploie, le rayonnement du langage par capillarité. C'est l'image que j'ai toujours, c'est une espèce de cerveau irrigué ou d'éponge irriguée et que l'étude du langage, pour moi, devrait être rattachée à l'étude de la physique des fluides. C'est de ça dont on se rencontre chaque fois un peu plus en travaillant et en travaillant seul et en travaillant aussi avec les acteurs. Là, ce livre que j'apporte
que vous avez
tout
dans
à l'heure,
votre
hier,
sac à dos.
Hier, j'ai encore, déplacé trois mots et mis un peu ailleurs, et tout d'un coup, ça change tout, comme mettre une touche de bleu dans un tableau où il y a que du rouge. Enfin, je sais pas, il y a une sorte de le langage est un corps plein d'échos. Il agit et il pense par raisonnement et non seulement raisonnement, c'est-à-dire le raisonnement de la résonance et le raisonnement de la raison. C'est très beau qu'il y ait en français un mot qui veut dire les deux à la fois. Il m'a toujours semblé que là où les langues, chaque langue en sait le plus, c'est sur les mots ambivalents, sur les mots réversibles. Et chaque langue n'a pas ces mêmes mots réversibles. En français, il y a entendre et entendre. Entendre par l'intelligence et entendre par l'oreille. Raisonnement et raisonner. Et surtout cet extraordinaire mot de personne, je crois qu'aucune autre langue n'a ça, qui est à la fois quelqu'un et aucun. Malheureusement, je n'ai pas appris beaucoup de langues anciennes. Mais c'est extraordinaire aussi que tout ce qui s'est développé à partir du mot logos. Que le logos grec réunit la raison, la parole, la science, etc., etc. Et que nous déclinons tout ça, mais dans le fond, quelque chose lit. D'ailleurs, je me demandais en venant, là, parce que je n'ai pas de dictionnaire étymologique sous la main, je me demandais si je ne me souvenais pas que j'avais lu quelque part que logos venait de lier aussi, que la logique liait. Eh bien, le logos, il ne lit pas, la parole ne lit pas, elle délie. Au contraire, elle délivre. Donc, cette utilisation, ce secours de la parole qui nous sauve de toute situation. Devant quelqu'un d'agressif, si vous arrivez à parler un peu la même langue que lui, tout d'un coup, un mot et tout va s'arranger. Devant la mort, au moment de mourir, vous allez dire comme Jarry, tout d'un coup, chercher une formule et dire « donnez-moi un cure-dent ». C'était tout à fait extraordinaire cette dernière phrase de Jarry. Et vous êtes sauvé par les paroles que vous avez prononcées. Donc le verbe est délivreur, comme le verbe grammatical est délivreur de la phrase. J'aime surtout les écrivains.
De la phrase ou du sens ?
Mais il délivre les mots, il délivre du substantif. Enfin, je ne sais pas comment vous dire. Mon écrivain préféré, curieusement, c'est quelqu'un dont j'ai pas lu, qui a une œuvre immense, mais je n'en ai pas lu beaucoup, mais c'est Bossuet. Bossuet, c'est extraordinaire, comme le verbe est toujours au cœur, c'est une langue extrêmement dynamique, il n'y a jamais des adjectifs entre eux, et c'est une sorte de drame que délivre un verbe. Et il s'exprime toujours par le verbe, plutôt que par le substantif, l'adjectif, etc. Donc la sensation de la logodynamique, que le langage sont des forces en mouvement et qu'on est pris dans ces forces et que ces forces sont aussi dans notre propre cœur. Le théâtre du langage est aussi le corps humain, pas simplement les médias, disons.
Vous avez été baigné, Valère Novarina, dès votre plus tendre enfance à l'intérieur de plusieurs langues et notamment de la langue du cirque, qui est très important, je crois, pour comprendre votre parcours. Nous allons entendre Albert Fratellini et ses frères qui vont évoquer la tradition familiale du cirque et ensuite on aura un petit extrait du spectacle. C'est une archive de 1953.
Nous arrivons des aventures de cirque énormes. Maintenant, dernièrement, on s'est habillé dans la loge et puis on va pour retourner dans la loge. La loge était déjà changée, elle était déjà partie. Alors la caravane, on ne trouvait plus la caravane pour s'habiller. On a dû partir à la maison tout habillé.
Tout habillé en clown.
Tout habillé en clown, et puis alors on nous a porté les affaires.
Eh bien, je pense que le spectacle s'est continué dans la rue et que les gens que vous avez dû croiser ont été heureux de vous rencontrer.
Ah oui, ils nous regardaient tous. On sortait, on ne trouvait plus la voiture.
Eh bien, je vais vous poser une autre question, et cette fois, ça n'est pas le reporter qui parle, mais le comédien. Est-ce que vous n'avez pas travaillé autrefois avec Jacques Copeau ?
Oui, nous avions des élèves, nous avions 17 élèves.
Et qu'est-ce que vous leur appreniez aux apprentis comédiens ?
On apprenait la cobassie, on apprenait les souplesses, on apprenait tous les cascades, les gifles, comme on prend toutes les affaires, n'est-ce pas ? Vous savez, on apprenait beaucoup. D'ailleurs, on les a même appris à faire les acrobates.
Oui.
Quand on fait le chapiteau, vous savez, il faut être jeune.
Il y a combien de temps que vous tournez, vous ?
Moi, depuis les années que je tourne, c'est 65 ans.
De ces 65 ans de cirque, nous vous présentons maintenant un bref instant avec le quatuor Fratellini, Albert, son neveu, Max, et ses deux fils, Louis et Nino, qui sont en scène. Après avoir salué joyeusement le public, Nino aborde Louis.
Non, mais dis donc, qu'est-ce que tu fais au fond ?
Moi, je travaille dans une brasserie.
Dans une brasserie ?
Oui, je transporte la bière dans les cafés.
Dans ça ?
Oui, avec une voiture, deux chevaux, et le fouet dans les mains.
Le fouet ? Ah, naturellement. Et tu es fatigué ?
Ah oui.
Mais tu fais rien ? Ce n'est pas toi qui travailles, voyons. Ce sont les chevaux qui travaillent, ce sont eux qui traînent la voiture. Toi, tu es assis, tu es bien installé toute la journée. N'importe qui peut faire ça. Et t'as pas honte ? C'est pour ça que t'es fatigué ?
Mais ce n'est pas tout.
Comment ce n'est pas tout ?
Je m'arrête devant chaque café, je descends de voiture, je prends deux tonneaux dans chaque bras. Ça va plus vite.
Ah oui.
Et je les porte à la cave.
À la cave. Mais dis donc, mais ça pèse combien, un tonneau comme ça ?
Une tonne, chat.
Il me semble que tu exagères.
magnifique. Oui, je crois aussi. Non, faisons un hecto.
Un hecto, ça va, ça peut encore aller. Mais tu en transportes combien par jour?
2000.
2000?
2000, oui.
Ah non, alors là, je te comprends. Ah, tu vois d'ailleurs, tu veux pas, ça, mais dis donc, il y a longtemps que tu fais ce travail.
Je commence demain.
Ça vous fait sourire, et nous aussi, Valère Novarina, car vous avez eu la chance de fréquenter les Fratellini. Votre père était un ami.
Oui, c'est ça. Oui, mon père qui, une fois par semaine, lorsque j'étais enfant et adolescent, une fois par semaine à table, parce que ma mère était comédienne, une fois par semaine nous disait que le théâtre ne valait rien, que le noble art, c'était le cirque. Voilà, il nous répétait ça très régulièrement. Et il avait connu les Fratellini, il allait dans leur loge, etc. Et il nous racontait que tous les vendredis, à cette époque-là, vers 1920-1930, quand il était étudiant à Paris, tous les vendredis, les intellectuels, les artistes, les peintres se retrouvaient au cirque.
Mais il n'y a qu'à regarder les peintures de cette période-là,
Léger,
d'ailleurs.
Léger, Mac Jacob, etc. Et que le cirque était une très grande leçon, qu'on allait tout d'un coup s'accorder au drame rythmique du cirque.
Ben, peut-être qu'il y a un peu de cirque à l'intérieur de votre propre œuvre théâtrale.
En tout cas, je parle souvent du cirque aux acteurs, pas du tout pour imiter le cirque, on l'imite en rien. Mais simplement, ce qui est très étonnant dans le cirque, c'est qu'il y a un renouvellement perpétuel de l'espace. Que à chaque entrée, et c'est beau d'ailleurs, je pensais qu'on dit toujours non pas des scènes de clowns, des sketchs de clowns, mais des entrées de clowns. À chaque entrée, parce qu'il y a aussi les entrées des dompteurs, à chaque entrée, chacun vient avec un nouvel espace. C'est-à-dire les antipodistes viennent faire des exercices au sol, le trapéziste tout d'un coup projette l'espace et la tête du spectateur et son regard dans les cintres, dans les sommets, vers les étoiles, etc. Le cavalier ou le dompteur viennent apporter le cercle des chevaux qui tournent toujours en sens rétrograde ou le cercle de la cage et le clown vient contrefaire tous ces espaces. Il vient faire l'anti-espace de chaque espace entre les numéros. Donc il y a un drame de l'espace, une aventure de l'espace, un processus, un progrès de l'espace, c'est très curieux qui pour moi n'existe qu'au cirque. Donc je dis à chaque fois, à chaque scène commence une nouvelle scène et vous apportez un autre espace. Et on n'utilise pas tout l'espace à la fois. On commence par une ligne, puis tout d'un coup vient le volume, puis tout d'un coup l'espace est renversé, etc. Il y a une sorte de drame, de renouvellement, de changement des forces.
Et à un moment, dans un de vos livres, vous écrivez cet aphorisme absolument étonnant. Vous dites « Le théâtre va plus vite que la pensée ».
Oui, alors on constate ça, vraiment, c'est des choses qu'on constate sur le spectateur. Les émotions sont vues au théâtre. On voit les gens parfois rire, etc., ou tressaillir, ou simplement respirer un peu autrement. On sent très bien ce qui se passe dans une salle et je viens chaque soir observer ce qui se passe sur le plateau, mais ce qui se passe dans la salle aussi, ça m'intéresse beaucoup. La perception, la construction du drame dans la tête du spectateur. Eh bien, quelqu'un rit à une réplique, pourquoi vous avez ri là? Il pourrait absolument pas l'expliquer noir sur blanc ou dans un déroulement logique. Il y a une sorte de perception, justement, du langage dans son corps, dans sa gravitation, dans la gravitation des mots et le langage, on se prend conscience que le langage agit dans tous les sens. Il n'y a pas qu'en allemand que le verbe est à la fin et éclaire le début de la phrase. En français aussi, une phrase toute prononcée à la fin de la pièce ou à la fin du livre fait résonner autrement tout le corps du livre. Donc c'est quelque chose aussi de plus rapide, une vélocité, une acuité de l'action du langage.
Parce que ce langage, vous le tourneboulez, vous le déséquilibrez, vous le réinventez, Valère Novarina. Et vous parlez très peu de vous dans vos textes, et très peu de vous, et pas du tout, même dans vos pièces de théâtre. Et cependant, vous parlez d'une sous-langue maternelle qui a été le hongrois dans un de vos textes.
Oui.
Et c'est une histoire absolument incroyable, cette sous-langue maternelle.
Oui, c'est
ça explique peut-être comment il y a des courts-circuits à l'intérieur de votre cerveau pour travailler la langue.
Oui, c'est-à-dire, voilà ce qui s'est passé. Ma mère avait, avant de connaître mon père, etc., avait un amoureux ou un prétendant, quelqu'un qui l'avait demandé en mariage, qui était un jeune Hongrois de Genève. Et puis finalement, mon grand-père a refusé parce que ma mère avait 17 ans et demi, ou je ne sais pas quoi, puis son Hongrois était un peu farfelu, je ne sais pas. Bon, voilà. Alors, mais il avait composé une chanson, une très belle chanson pour ma mère. Et lorsque mon père n'était pas là, parce que mon père était très souvent absent, mon frère et moi, nous étions attirés près du piano de tante Mathilde, qui était dans une chambre un peu à part. Et là, on chantait quelques chansons de Botrel, ma mère les chantait. Et puis tout d'un coup, venait la chanson hongroise. Et là, elle chantait cette chanson hongroise qui était... Elle chantait avec un cœur, avec une foi extraordinaire, mais en se trompant peu à peu sur les mots, de sorte une sorte de hongrois assez flottant. Alors, j'ai enregistré cette chanson, je l'ai fait traduire par des Hongrois, et ils étaient très curieux de voir, c'était du hongrois un peu à la dérive, à la langue, mais... Tout ce qui venait de Hongrie m'a attiré dès ce jour, parce que c'était aussi une langue, évidemment, un peu secrète entre ma mère et nous deux. Mon père ne voulait pas du tout qu'on chante la chanson hongroise dans le sous-sol.
Et vous écrivez ceci, je ne sais pas l'effet que cette chanson faisait sur mon frère, mais elle m'entraînait à chaque fois dans une rêverie profonde. Elle me disait tout à la fois que j'aurais pu être hongrois, être juif et ne pas être, puisque Itzvan était mort en déportation avant ma naissance. La Hongrie devint pour moi une sorte de secrète seconde patrie et la langue hongroise, de toutes les langues étrangères, celle qui me touchait immédiatement et profondément comme une langue maternelle incompréhensible. Donc ça voudrait dire, parce qu'on vous croit, évidemment, sur parole, sur écrit, si j'ose dire, qu'on aurait beaucoup de langues à l'intérieur de nous qui nous emmèneraient dans des terra incognita.
Oui, puis il me semble aussi, comment dire, que les langues se souviennent les unes des autres. Et on sait beaucoup plus de langues qu'on ne croit. Que chacun des parlants, des usagers, des gens qui parlent français, savent aussi le latin, savent aussi un peu le grec. Il y a une sorte de profondeur, d'écoute profonde du drame philologique de chaque langue. On est en contact avec des... J'étais en contact aussi très fortement... avec le franco-provençal, le patois savoyard, qui était encore parlé dans la montagne. Je faisais une heure de vélo et on parlait patois et je pouvais récolter des choses en patois. Et c'est ce qui est une très belle langue parce que c'est pas du tout du français amoché, mais c'est une autre façon de descendre du latin. Donc c'est tout à fait cette... Malheureusement, je ne sais ni le hongrois, ni le patois, ni aucune autre langue que le français, mais simplement ce petit dédoublement qu'il y a et qui apporte du volume entre les langues. C'est pour ça que les questions de traduction m'intéressent beaucoup, parce que tout d'un coup, ça fait apparaître un peu de vide, d'espace et d'air entre les langues. Et par exemple, j'ai fait ensuite un travail en Hongrie. J'ai suivi de très près.
Vous avez réussi.
Oui, ben c'est-à-dire on m'a
concrétisé votre rêve d'enfant.
Ben oui, on m'a proposé il y a 2 ans et demi de faire une mise en scène en Hongrie et c'était absurde, mais j'ai pas pu dire non. Donc je suis allé faire ma mise en scène et dans l'avion je me disais mais comment je vais savoir que si les acteurs sont justes ou faux et qu'est-ce que les spectateurs saisissent. Je ne sais rien de cette langue, etc. Et j'ai travaillé dans cette langue. Incompréhensible tout le temps avec des traducteurs, etc. Et finalement, le travail était très très difficile dans un premier temps parce qu'ils étaient ces acteurs-là de tradition stanislavskienne, disons très psychologique. Moi, je leur disais, je suis plutôt côté Meyerhold, mais ils savaient pas trop qui c'était. Ils avaient aussi subi l'empire soviétique, hein, voilà. Mais finalement, ce qui est très beau, c'est que c'est par la musique que tout s'est dénoué, par le travail que Christian Pacou a fait avec eux, par le rythme et l'intelligence du rythme. Le rythme pense, le rythme dit quelque chose. Et ce croisement entre le langage et la musique était tout d'un coup quelque chose de tactile, qu'ils ont compris parce qu'ils ont touché la chair des mots et la structure rythmique de la pensée. Là, quelque chose, la pensée me semble un drame rythmique qui arrive au vocabulaire. Que la pensée brûle les mots aussi. Pas les brûle comme on brûlerait des livres, je sais pas quoi, mais les brûle dans le sens d'ardeur. Les mots ardent, du verbe arder, enfin, je sais pas, voilà, peut-être du 15e siècle. Bon. Les mots sont dans un état d'ardeur dans la phrase, ils sont brûlés, c'est-à-dire chaque mot amène à un autre. L'autre jour, j'entendais un poète allemand qui s'appelle Oswald Eger. Il a parlé pendant très très longtemps, il a lu des textes en allemand. Et tout d'un coup, je ne comprends pas trop bien l'allemand. Et au bout d'un moment, j'ai cessé de vouloir comprendre. Mais j'ai tout d'un coup compris qu'il était comme quelqu'un qui court dans une course de haies. Dans une course de haies, on renverse les haies et on continue. Et que les mots nous font faire des bonds et on passe par-dessus pour que le mouvement, la pensée, aille plus loin. Donc il y a une sorte de destruction où les mots sont abattus dans la phrase.
Nous allons entendre votre propre langue, mais pas interprétée par vous, interprétée par Alain Cuny. Nous allons entendre un extrait du monologue d'Adra Malesch, donc de Valère Novarina. Et ça, c'est une archive de l'atelier de création radiophonique du 9 janvier 1983. On va vous entendre dans la voix d'Alain Cuny.
Satané, marmillard de billon d'apparent, 690 000 millions de triards de billions. L'Adra Malesch, son labeur est à son comble. Adra Malesch, sire, je t'ai formé de limon, et où je vais, bien à l'abri sous ton paletot de planche, ronger ta souche vite éclusée. Oui, diable, j'y vais, c'est sûr, à toute vitesse. Ainsi je parle à celui qui me lorgnerait et m'épirait par la lunette. Les 9/4 de nos vies sont mangés en heures stupides de stances, de stasses, de va-et-vient. Nous lèverons nos bras et votre tête va tomber. Oh, je suis mal content de ma vie de trajet à station ridicule. Ma tête est trop triangulaire, pas assez ronde à mon idée. Mes bras sont bons, pas assez longs et m'en manque 8 pour en faire 10. Silence, Adraméon. Ablaméléon, Ablamélec, tais-toi ou monte, mais parle plus, marne à ma pioche et glose à mes talons. 1000 sommes en bas, une seule poignée occupe les lieux, ils sont dans leur séjour. Leurs yeux ne nous voient pas, mais nous, nous les voyons. Mais leurs yeux ne nous voient pas, et eux ne nous voient là.
Vous écoutez intensément la voix d'Alain Cuny disant votre propre texte. Donc, le monologue d'Adra Malesch, je rappelle qu'auparavant, il y avait déjà eu plusieurs textes de vous qui, entre-temps, sont devenus connus et reconnus partout dans le monde, comme le Babil des classes dangereuses, la lutte des morts, l'être aux acteurs, le drame de la vie. Mais là, Alain Cuny disait-il, comme vous le souhaitiez, ce texte? Parce que quand on entend Alain Cuny, on a l'impression qu'il le tire vers le côté biblique et un peu tragique. Or, quand vous l'avez donné, ce monologue, quand il a été créé au Festival d'Avignon, puis ensuite repris au Festival d'automne à Paris, il était plus joueur, il était plus taquin, il était plus sensuel, il était plus... On parlait du cirque tout à l'heure, mais ça tournoyait, la langue tournoyait plus.
Oui, ce texte a été le monologue d'Adra Malesch, donc ça a été... Une première fois, c'est apparu à la radio dans une émission de Jean-Loup Rivière. C'était une idée de Jean-Loup Rivière. J'ai pas assisté à j'ai pas travaillé avec Cuny. Je l'ai rencontré par la suite, etc. Et ensuite, Marcon a travaillé ce texte, fait une version qui allait plus vite, qui était plus rapide, qui était plus allant de ci de là avec des contrastes. Mais là, en écoutant Cuny, je trouve ce qui est très beau, c'est qu'il en est. Où il en est avec ce texte, c'est-à-dire il, il, Le texte lui arrive, il se trouve dans un texte qu'il faut apprivoiser, et je trouve qu'il est jamais à côté. Il fait jamais du Alain Cuny ou du Souffle, je sais pas. On sent qu'il y a quelque chose de tout à fait authentique dans sa façon de prendre le texte avec une certaine lenteur, parce qu'il doit être obligé de le suivre un peu pas à pas. Et Jean-Louis Rivière me racontait que Cuny demandait toujours des explications. Mais pourquoi je dis ça? Qu'est-ce qui se passe? Etc. Donc, il n'est pas venu comme ça dans le studio faire son Alain Cuny. Voilà. Il est attentif, il recherche la vérité du texte. Et si, en l'écoutant attentivement, puisque je parle souvent du langage comme un fluide, comme un fleuve ou un torrent, etc. Là, il me semble, lorsque Marcon le jouait, c'était torrentiel. C'était un torrent. Et là, Cuny, il commence et il regarde la rivière et surtout, il descend dans le lit de la rivière. Il descend réellement dans les phrases peu à peu. Il repère comme ça. Une autre fois, il aura peut-être joué un peu trop. Mais j'ai trouvé très beau cet acteur au travail dans le déchiffrage lent comme ça. Moi, je trouve
le lit de la rivière.
Moi, je trouve que c'est, oui, j'ai du tout d'un coup cette que les plis du sol qui dictent à la rivière ses mouvements. Enfin, je sais pas comment dire. J'ai l'impression.
Donc il y a un côté géologique dans votre invention
de la langue.
Oui,
j'ai toujours des images de géologie ou fluviales et je rêve. J'essaye parfois, peut-être je ferai un jour, de faire un livre sur le langage ou la linguistique et la géologie. C'est-à-dire qu'il y a aussi des plis, des monuments très anciens, des rivières sous le plateau, des effondrements possibles dans le langage. Que le langage est un corps, un paysage de montagne, c'est aussi comme c'est un drame géologique. Ce qui est beau, ce qui est pour ça que la
ça fait six fois que vous prononcez le mot drame.
Ah oui. Mais ce qui est beau à la montagne, bon, j'aime aussi les paysages de plaine, etc. Bon, le bord de la mer. Bon. Mais à la montagne, il y a l'impression d'un drame arrêté. Il y a quand même le drame. Vous savez que les Alpes prennent un centimètre toutes les années, sauf que Genève descend d'un centimètre régulièrement. C'est un drame terrible. Donc, c'est quelque chose d'arrêté, mais un mouvement arrêté. C'est ça c'est ça aussi, ce renouvellement de la vue qu'il y a. Et je cherche à percevoir le langage de cette façon, avec des mots qui s'effondrent, des mots qui changent de chance, des roches qui changent de nature. Voilà cette représentation de dynamique des choses. Mais dans drame, j'entends pas dramatique, j'entends plutôt des épisodes rythmiques. J'entends le déroulement de quelque chose dans l'espace ou dans le temps. J'entends pas le drame n'est pas dramatique. Pour moi, drame c'est le processus, la voie, le cheminement, quelque chose qu'on ne peut aborder que dans son apparition, disparition dans le temps, dans ses phases. Rien n'existe, tout est en mouvement. C'est pour ça que c'est ce que j'essaye de. Il faudrait que je creuse un peu cette affaire du drame.
En tout cas, vous nous avez fait découvrir un aspect de la personnalité d'un des plus grands acteurs français grâce à un livre qui s'intitulait « Pour Louis de Funès », qui a été lu d'ailleurs aussi au Festival d'Avignon par André Marcon, qui est un de vos acteurs fétiches, un de vos compagneros. Et nous allons entendre Louis de Funès qui va parler du plaisir qu'il prend à jouer au théâtre et de son rapport à l'expressivité. C'est une archive du 2 janvier 1974, un entretien avec Pierre Billard, Louis de Funès.
Mais c'est agréable de jouer une pièce 600 fois, enfin, on peut supporter
ça. Tous les soirs c'est la première fois. Ben, le public change.
Et c'est le public qui compte pour vous.
Ah, il n'y a que le public.
Mais si le public est si important pour vous, ça doit être un peu frustrant de faire des films. Enfin, vous n'êtes pas porté par le public quand vous tournez ces morceaux hachés,
oui. Dans
un ordre. C'est plus difficile, non, pour un comique.
Oui. Il faut prévoir les rires. Ce n'est pas un déclic, c'est une espèce d'état. Peut-être chez les dramatiques, c'est pareil, mais je sens quand ça porte. Je ne peux pas vous le définir, c'est dans l'air, c'est un petit état. Je crois, enfin, on est presque sûr. On n'en est pas sûr, ça devient une mécanique.
Oui,
il ne faut pas que ça devienne mécanique, heureusement.
Mais généralement, ça se confirme quand même.
Ah oui, comme on a travaillé avec Bourville, on mettait les scènes au point, et avec Gérard Oury, eh bien, on sentait que c'était là la rigolade, et c'est là la rigolade. On n'a pas de surprise. Mais je préfère le théâtre.
Oui, vous préférez le théâtre. C'est ce que je voulais vous faire dire.
Oh là là.
Oui, c'est-à-dire que vous préférez être porté par ces gens pour qui vous travaillez.
Il y a des soirs, vous savez, quand ça rit beaucoup, On devrait payer. On ne devrait pas être payé.
Ah oui, à ce
point-là. Je n'oublie pas, je prends quand même mon chèque. Quand on est seul, par exemple, le comique est regardable à la télévision quand on est seul. C'est pas regardable, mais enfin, on ne rit pas. Et c'est dans une salle où on rit énormément. Une pièce dramatique, par contre, ça commande très bien la télévision. C'est très bien, la voisin de rire, on peut être tout seul. Mais dans le comique, il faut être plusieurs.
Mais justement, il me semble que dans vos films, la partie parler, le rôle de la parole, a tendance à diminuer.
Oui.
Est-ce que c'est volontaire ou c'est par hasard?
C'est volontaire, parce que ça va diminuer de plus en plus, si je le peux. Mais de plus en plus, faire un dialogue qui fait rire, je ne sais pas, un dialogue fonctionnel, mais pas de mots d'esprit, vous savez, pas de jeu de mots.
C'est ça, oui, pas basé
tout
sur,
à fait par hasard.
Sur le dialogue de théâtre proprement dit. Vous préférez essayer de trouver...
Mais le dialogue de théâtre, j'aime pas dire un mot, parce que un jeu de mots, je n'aime pas. Autant j'aime le voir, par exemple, par Guitry, j'aime le voir. Mais je n'aime pas, moi, le dire. Un regard peut vous dire tant de choses... Ça veut dire, passez-moi le plat. Certaines, vous pouvez le dire de mille façons, d'une façon courte, sans besoin de dire un mot.
Oui, je veux dire qu'ici, l'auditeur perd beaucoup du dialogue avec De Funès parce qu'il accompagne ses explications de gestes expressifs. Et là, vraiment, il faudrait...
L'expression, vous savez, ça trahit souvent la pensée un petit peu. Alors que la parole la masque complètement.
La masque complètement. Oui.
Complètement. On peut masquer une pensée de meurtre en chantonnant. La, 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 la. Et l'autre, il est en train de penser à affûter une lame, vous comprenez, tout en chantonnant.
Bien sûr. Oui.
Mais... si vous regardez l'œil, vous voyez la lame dedans. Il y a tout le truc, mais c'est très fugace.
Pas mal, non ?
C'est la première fois que j'entends sa voix hors d'un rôle au cinéma, au théâtre. C'est la première fois, oui.
Quelle intelligence !
Des choses très, très, très étonnantes aussi sur le jeu de mots. C'est un grand ennemi du jeu de mots, et moi aussi, je n'aime pas du tout ça. Enfin, je ne sais pas comment dire. Mais il disait des choses très belles sur le théâtre. D'ailleurs, ce petit texte que vous avez cité pour Louis de Funès, il a une histoire bizarre, c'est-à-dire que j'avais découpé... dans France Soir, une phrase extraordinaire de Louis de Funès qui dit, voilà, une phrase tout à fait étonnante que je montrais à des amis. Je dis, qui a dit ça sur le théâtre? On me disait, ça, alors ça doit être Nietzsche. Non, c'est Nijinsky. Non, c'est Alain Cuny. Non, c'est Louis de Funès. Ah bon, etc. Et puis cette petite phrase, j'ai perdu mon portefeuille. Elle était toujours dans mon portefeuille. Elle a disparu et dans le fond, j'ai essayé de la reconstituer à ma façon ou d'écrire ce livre où j'ai fait une sorte de Also sprach Louis de Funès, c'est-à-dire je l'ai fait parler à ma place.
Il a été écouté?
Ben lui, quand j'ai écrit ce texte, il était mort. Il était mort.
Donc il n'a jamais su à quel point vous l'aviez réhabilité.
Non, 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 non. Mais j'ai eu ensuite des messages de sa famille, d'Olivier de Funès, ça m'a fait plaisir, etc.
Alors quand on regarde votre itinéraire, Valère Novarina, on s'aperçoit que très jeune, vous commencez à écrire, à peindre, mais vous décidez de devenir acteur. Vous ne réussissez pas votre concours, vous ne vous obstinez pas et vous continuez à écrire. Mais il a fallu un certain temps pour que vous puissiez être connu, accepté, puis ensuite reconnu. Et petit à petit, vous allez assumer plusieurs rôles. Vous serez plus seulement celui qui écrit des textes de théâtre, vous serez aussi celui qui va les mettre en scène et vous serez aussi celui qui va en construire les décors en faisant vos propres peintures. Comment se sont passées ces différentes étapes? Est-ce que vous avez cru en vous-même et en vos différentes possibilités artistiques?
Il faut préciser tout de suite que les décors, je travaille avec un scénographe extraordinaire qui est Philippe Marioge. Je me garde toujours un endroit où je peins, mais je ne fais pas la scénographie. Je peins sur les décors de Marioge dont on a parlé ensemble.
Mais non, on voit vos spectacles,
oui, bien sûr.
Ce sont vos peintures.
Oui, bien sûr, bien sûr. Non, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai écrit du théâtre, puis du théâtre uniquement dans la tête, du théâtre ayant tourné le dos à la scène, 2587 personnages, un drame à n'en plus finir, etc. Voilà. Et puis ensuite, Alain Krombeck m'a proposé de faire quelque chose à Avignon, et je lui ai proposé le drame de la vie. On a cherché un metteur en scène, parce que je n'étais pas du tout metteur en scène. Ils ont absolument tous refusé les uns après les autres. Et en fin de compte, Laurence Maillard m'a dit, écoute, tu as autour de toi les acteurs, tu aimes les acteurs, tu sauras leur parler, tu peins et tu as... pourrais utiliser tes peintures sur la scène, vas-y, fais la mise en scène. Je dis, mais je ne suis pas metteur en scène, j'aurais peur, etc. Donc, assez tardivement, j'ai commencé à travailler avec les acteurs parce que personne ne s'occupait de mes textes. Donc, voilà. Mais ensuite, c'était une grande joie de travailler avec les acteurs et de passer de la solitude d'écrire à ce rapport très fort qui est avec les acteurs et de voir les choses d'un autre point de vue, quoi. De voir le texte se développer dans leur corps et les faire se mouvoir et émouvoir le public, parce que je suis un metteur en scène pas du tout directif, très attentif, mais pas du tout directif. Et il me semble que le travail de la mise en scène, c'est favoriser le contact le plus profond possible entre l'acteur et le texte. Que tous les mouvements, toutes les impulsions, tout viendra du contact avec le texte. Et ensuite, avec l'espace qui est là, avec la réalité des lumières, cette salle qui est celle-ci et pas une autre. Donc, développer l'instinct, presque le toucher de l'acteur, le toucher du texte et le toucher de l'espace, et que c'est de lui que tout viendra. C'est à ça que je dois veiller.
En mettant sur le plateau de théâtre vos propres peintures, vous circonscrivez un espace géographique, mais aussi un espace mental et psychique. Nous allons écouter la voix de Jean Dubuffet. Il va évoquer les raisons pour lesquelles il peint des idées et des hommes. C'est une archive du 20 mars 1954. Jean Dubuffet.
Les Européens ont la manie de vouloir les raisons de toutes choses, de vouloir analyser toutes les choses. Et moi, j'ai une forme d'esprit qui est justement très différente. Je voudrais retrouver l'expression sans aucune espèce d'explication, l'expression à l'état brut. Et pour cette raison, chaque fois qu'on me pose des questions sur les raisons de mon art et de mon comportement, on m'embarrasse grandement. On m'embarrasse à peu près comme on embarrasserait une grenouille si on lui demandait pourquoi elle vit dans l'eau, pourquoi elle a des pattes palmées. Elle vous répondrait qu'elle ne s'est jamais posé la question, qu'au surplus elle n'en sait rien, qu'elle attend de vous que vous lui expliquiez pourquoi. Je crois que l'art est toujours basé sur des conventions. Il y a une espèce de langage, on brode sur un canevas et chaque artiste se fait un canevas spécial, un canevas qui lui convient à lui pour ses propres broderies. À partir du moment où vous prenez le canevas d'un autre, vous faites un faux art, une fausse monnaie, une singerie, un art de singe. J'ai l'impression que l'art doit avoir un caractère interdit. J'ai l'impression, je me souviens quand j'étais un enfant, que de fumer une cigarette était pour moi une très grande joie, une très grande fête, parce que c'était interdit à mon âge. Et quand plus tard j'étais un adolescent, je me souviens d'avoir connu des moments d'exaltation de l'esprit parce que je passais des nuits sans sommeil ou des journées sans travail ou de toute façon je faisais des choses qui étaient interdites, qui étaient en rupture totale avec le quotidien. Et je crois que l'art, pour avoir ce caractère de fête et d'ivresse qu'on lui demande, a besoin d'un caractère interdit.
Nous venons d'entendre la voix de Jean Dubuffet qui a compté, je pense, beaucoup dans votre propre élaboration de votre doctrine artistique, Valère Novarina.
Oui, je pensais qu'il allait le dire dans la suite de l'extrait, mais il disait que si on voulait que l'art refleurisse, se développe et reprenne sa force, il faudrait absolument interdire la vente de pots de peinture partout, mettre en prison les gens qui sont surpris à peindre, etc., et que l'art y retrouverait sa force et sa vivacité. C'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer souvent sur le tard. Je connaissais pas tellement sa peinture, mais je le considérais comme un penseur, comme un philosophe. Et aussi, je connaissais tout ce qu'il avait réuni autour de l'art brut, etc. Donc, c'est quelqu'un, je sais pas, cette idée qu'il y a quelque chose, une science du toucher, qu'il faut toucher les choses pour on apprend par le contact avec la matière même, et que le grand ennemi de l'art, c'est l'intention. si on arrive à se défaire des intentions et à donc que ce soit la matière qui parle dans le fond, ce qui ne veut pas dire que ça va tout seul, au contraire, mais il y a une sorte de mettre un animal au travail, c'est la grenouille qui doit nager dans son étang. Enfin voilà, ce sens du toucher, du concret, et puis je sais pas, il y a plein de choses que parfois je relis. Il parle aussi de la polyphonie libératrice, c'est très beau ça, c'est-à-dire qu'il faut aller justement vers un pluriel. C'est pour ça qu'il faut passer du 1 au 2 au 3 au 4, etc. Et dans le fond, il faut tout doit se terminer par une fugue, par un contrepoint et par une ouverture. Et il faut ouvrir les personnes en face, ouvrir le langage et montrer qu'il y a plus de dimensions qu'on ne croit. Que on vit dans un monde très très réduit, très très aplani, un monde de binaire, manichéen, un monde où tout est écran, surface plate, etc. C'est ce mot écran qui est là partout. Et il faut retrouver la joie du volume, l'éros du corps, la réjouissance du langage et de l'espace. C'est une sorte de retrouver la pluralité à la lecture d'un livre ou un spectacle ou une musique. Ça doit un peu nous enlever un ou deux grammes sur la conscience de ce qui nous terrasse.
Dernière question, Valère Novarina. Dans L'espace furieux, vous avez créé le personnage de Jean Singulier qui, à un moment, s'exprime ainsi. « Lorsque j'étais enfant, je lisais les mots à l'envers et éplais des jours entiers mon nom par la fin. » Est-ce un écho autobiographique ?
Vous savez, moi je dis aux acteurs, c'est facile, il faut vous dire que dans ce texte, tout est vrai. Voilà, c'est tout. Tout est vrai de bout en bout, que ce soit autobiographique ou autobiographique de deux, parce que aussi je... Mais que, évidemment, je pense que ce qui pousse à s'intéresser au théâtre, c'est aussi ne pas apparaître. C'est aussi, c'est tout à fait le contraire de la littérature du moi, etc. Enfin, voilà, le théâtre, il y a une sorte de ruse et de que aussi se voir aussi comme un animal, voir aussi reprendre conscience que nous sommes des animaux qui parlent et reprendre conscience que le langage est comme une banderole qui sort des bouches, comme dans les bandes dessinées ou les peintures médiévales, que le langage c'est des lettres qui sortent de la bouche aussi.
La figure pauvre. Par la fenêtre, on voit un groupe de sapins, sapins isolés à double tronc, une maison en ruine avec des poutres, une baie d'ortie, une prairie d'herbe avec des chardons, les sapins vert sombre ou bleu sombre, vert bleu sombre, les sapins toujours là sombrement, une colline bleue ou bleu gris, le ciel très 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 blanc au-dessus du bas de la colline, le ciel un peu plus bleu au-dessus, des rojals ou épilobes au milieu des orties, nom des herbes, dire le nom des herbes. Je peux encore dire le nom des herbes. Merci Valère Novarina. Toute l'œuvre de Valère Novarina est publiée, elle est très abondante, vous la trouverez sur le site internet de Hors-Champ. Le dernier, c'est Le Vrai Sang, mais le prochain s'appellera comment ?
La quatrième personne du singulier.